On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 30, l'Hexagone Game en lycée pour parler de la laïcité. La ludification de ces activités, c'est le pari que s'est lancé Michael, professeur d'histoire-géographie en lycée à Dijon, pour encourager ses élèves à parler d'un sujet bien épineux, la laïcité. Découpage, encouragement à la conversation et au débat, le tout tissé par les interventions du professeur. Tout est pensé pour encourager l'apprentissage au travers d'une activité ludique, s'appuyant sur l'autonomie et l'esprit critique de chacun et chacune.
Rebonjour. Allez, on y va. Allez-y, installez-vous.
Bonjour Michael.
Bonjour Nathalie.
Donc vous avez au tableau le titre de la séance du jour. Je vous rappelle que là, donc, même si on reste dans la même salle, nous passons en EMC.
Entrer dans une classe de lycée quand on a été enseignante de primaire, franchement, c'est super enrichissant. Et je crois que finalement, j'aurais adoré. Il y a tellement d'effervescence intellectuelle. Merci pour cette opportunité.
Ben merci à toi d'être venu.
Je vous propose cette activité, pareil, vous le saviez, une activité organisée autour d'un Hexagone Game. Pour faire l'Hexagone Game, je vais vous demander de travailler en équipe. Deux possibilités. Est-ce que vous voulez garder les mêmes équipes que la dernière fois ou est-ce qu'on les change ? On les change ?
Dis-moi, Hexagone Game, mais qu'est-ce ? Est-ce que tu peux nous présenter cette activité en quelques mots ? Parce que j'entends ce que vous faites dans la classe, mais on ne voit rien.
Alors, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est très visuel, les Hexagone Games. Alors, si on tape Hexagone Game et avec mon nom à côté, on va trouver plein d'exemples et des modèles pour pouvoir les reproduire. C'est des petits outils très simples. On donne aux élèves des hexagones sur lesquels on a ajouté des images, on a ajouté des mots, on a ajouté des citations. Et donc, on crée une collection d'hexagones. Et on affiche un sujet au tableau et on leur dit, eh ben vous avez ces hexagones, vous les utilisez pour répondre à cette question. Et vous les organisez de la façon qui vous semblera la plus opportune. Donc vous pouvez faire des flèches, vous pouvez faire des titres, vous pouvez les coller les uns à côté des autres, vous pouvez faire des dessins à côté des hexagones, mais à la fin je veux le poster le plus clair et le plus cohérent possible que vous pourrez éventuellement aller présenter au reste de la classe à l'oral.
Comme d'habitude, je vais vous demander de créer un poster. Je vous ai ramené des feuilles A3 en utilisant un maximum d'hexagones. Mais ensuite, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter des titres, vous pouvez ajouter des flèches. Il faut me créer quelque chose de cohérent permettant de répondre à notre problématique du jour que j'ai d'ailleurs rappelée sur la feuille d'exercice que vous allez avoir. De quelle manière la laïcité garantit-elle et encadre-t-elle la liberté de conscience ? Je vous rajoute juste une information importante. Je vous rappelle que sur cet hexagone, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est que vous créez, vous, votre poster, les filles. Vous créez, vous, votre poster et vous allez nous expliquer pourquoi vous en êtes arrivés là.
Et ce qui m'intéresse avec cet outil, c'est qu'on est en fait en train de travailler la réflexion, on est en train de travailler l'argumentation, mais dans un contexte beaucoup moins contraint que dans le cadre d'une dissertation, où on dit, bah voilà, il y a des parties, il y a des arguments, il y a des exemples. Là, on donne les éléments aux élèves et on leur demande de se les approprier et de les organiser, et ensuite de venir justifier les choix qu'ils ont réalisés. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette technique, c'est qu'il n'y a donc pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas toujours le résultat, c'est la discussion qu'ils vont avoir entre eux pour arriver à ce résultat, et ensuite la façon dont ils vont justifier ce résultat.
Ça veut dire que dans ta classe, on a quelques groupes d'élèves qui travaillent ensemble, donc on va avoir X posters qui ne se ressemblent pas du tout avec les mêmes éléments de départ.
Voilà. Exactement, il crée systématiquement une production totalement différente et donc il n'y a pas de corrigé, il y a juste des productions qui sont défendables ou moins défendables.
Ouais. En fait, la laïcité à l'école, c'est une obligation ou c'est juste un devoir ?
Pourquoi avoir choisi ce format-là sur ce sujet de la laïcité, Michael ?
Alors, il me semble que on est exactement dans le genre de thématique qui se prête à ces Hexagon Games, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, l'objectif, c'est de favoriser le débat, la discussion entre les élèves. Et donc, quand on évoque la question de la laïcité, on est clairement sur des sujets de débat, notamment et peut-être d'ailleurs surtout chez nos élèves. C'est un concept qui aujourd'hui est assez mal accepté par les jeunes, par nos lycéens. Donc on a deux façons de le voir. Soit on se dit qu'il y a une définition officielle républicaine de la laïcité et on vient pour donner cette vision officielle. Soit on introduit le sujet, on leur dit ben, je voudrais que vous en discutiez. Et ensuite, en tant qu'enseignant, on essaie d'affiner un petit peu les choses, on essaie de leur dire qu'il y a des aspects du problème qu'ils n'ont peut-être pas vu, et donc on leur permet de se construire, de réfléchir et de développer leur esprit critique. Donc là, moi, il me semble intéressant de ne pas arriver avec le prof sur sa chaire qui a le savoir et qui vous explique ce qu'est la laïcité et que la laïcité c'est forcément bien parce que c'est la République et les valeurs de la République. Je commence en leur disant voilà ce que c'est que la laïcité dans des hexagones. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Et en fait, dans la mise en activité, on a d'ailleurs certains élèves qui ont rangé certains hexagones dans une catégorie qu'ils ont mis à part, où ils ont dit bah, « en fait, ça n'existe pas » ou « c'est illégal ». Et là, du coup, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses sur la laïcité qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas.
On pose la question très directement sur la table. A-t-on le droit de se trimballer dans la rue en France ? La République française est une république laïque. A-t-on le droit de se trimballer avec un chariot dans la rue disant « Venez parler, je peux vous donner des livres de religion, je peux vous faire des cours de religion ». A-t-on le droit ou pas ? Alexandre.
Le droit, c'est pas laïque, c'est du prosélytisme un peu.
Oui.
Enfin, on s'en approche, c'est pas totalement ça, mais... C'est pas laïque en cas.
Ok, donc Alexandre nous dit non, on n'a pas le droit, c'est pas laïque.
Intéressant de, finalement, ça fait émerger les points de tension sur lesquels travailler, puisque c'est notre défi, hein. Faire société, effectivement, soit on édicte quelque chose et on estime que ça va descendre par miracle dans toute notre société, soit on identifie comment ça fait tension et on travaille explicitement sur ces points de tension. Et du coup, est-ce que là, dans les différents groupes que tu accompagnes sur cette séance, tu as identifié des sujets sur lesquels tu auras envie d'aller travailler ?
Alors en fait, justement, la reprise s'est faite en ciblant certains sujets qui ont été saillants pendant les débats. Nous n'avons pas eu le temps de reprendre chaque hexagone, d'expliciter chaque hexagone, et donc je suis revenu sur des aspects qui ont suscité des débats, et parfois des débats virulents à l'intérieur des groupes. Et donc entre élèves, qui sont par ailleurs amis, qui pensent se connaître, et là, malgré tout, on leur met un thème entre les mains et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il va falloir à un moment donné discuter. Et donc, il y a eu deux groupes sur lesquels je suis plus particulièrement intervenu. Un groupe qui est revenu sur le thème très traditionnel du voile à l'école. Et voilà, on avait une jeune fille qui expliquait que c'était pas normal que des jeunes filles ne puissent pas venir avec leur voile à l'école, alors que par ailleurs, on accepte des signes religieux discrets. Et donc dans ce groupe, on a une jeune fille, une autre jeune fille qui a découvert qu'on avait le droit d'avoir des signes religieux discrets.
Parce que la laïcité, normalement, elle n'autorise pas les signes religieux. Mais si c'est discret, normalement, ça va.
Bah. Non, en fait, ils interdisent les signes religieux, donc il n'y a pas de préférence à faire.
Il n'y a aucune préférence, c'est juste...
Si, ouais, c'est interdit. Mais c'est ce que je te disais il y a genre 5 minutes, c'est super injuste d'interdire les femmes quand elles lèvent leur voile en rentrant devant le lycée, puis de laisser les femmes avec leur croix genre rentrer dans le lycée. C'est super injuste.
Parce que pour moi, il y a une histoire de taille.
Il n'y a pas d'histoire de taille.
plus c'est discret, plus ça passe.
Et ensuite, le débat traditionnel s'est lancé sur qu'est-ce qu'un signe religieux discret. Et voilà, et elles ont passé 5 minutes là-dessus à se dire, mais en fait, on n'était pas au courant. On n'était pas du tout au courant qu'on avait le droit d'avoir des signes religieux discrets. On pensait que c'était totalement interdit. Et donc derrière, certains disent, bah, du coup, c'est pas normal parce que avoir une médaille de baptême discrète sous son t-shirt, c'est possible. Avoir son voile, c'est pas possible. Y a-t-il ou pas une inégalité de traitement, ou bien est-ce que c'est normal au regard de la discrétion ou de la non-discrétion ?
Donc vous voyez bien que là, il y a une ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que discret ? Quelle est la définition de discret ? Est-ce qu'on a un nombre de centimètres ? Est-ce qu'on a de la couleur ?
Donc là, c'est des vrais sujets qu'on leur met entre les mains, et moi je suis toujours bluffé de me dire qu'ils ne l'ont pas eu, cette discussion, avant. Et puis ensuite, là c'était mon petit clin d'œil, mais volontaire, j'ai mis un hexagone qui dit explicitement « il est possible d'avoir des salles de prière dans les écoles ». Et pour beaucoup, ils m'ont répondu « non ». Certains ont dévié en disant « oui, dans les écoles privées, mais pas dans les écoles publiques ».
Les salles de prière, déjà, je sais pas, après je suis jamais allé dans un lycée privé, mais on a tous discuté ensemble et normalement on n'a pas le droit de faire des salles de prière.
Cet hexagone, ça me permet moi d'introduire la liberté de culte, et ça me permet derrière d'expliquer aux élèves que en fait c'est tout à fait possible d'avoir des salles de prière dans certaines écoles, dans un contexte bien précis, parce que nous avons en fait d'un côté la laïcité qui veut qu'il y ait un espace le plus neutre possible, mais de l'autre côté, il y a la liberté de culte. Or, un élève qui serait scolarisé toute la semaine dans l'internat ne peut pas faire sa prière s'il souhaite faire sa prière, donc ce serait une atteinte à la liberté de culte. Et donc, il y a une disposition dans les écoles françaises, qui est totalement connue des chefs d'établissement, qui fait qu'on peut mettre en place une salle de prière très bien encadrée, mais une salle de prière pour préserver la liberté de culte des élèves.
On prend en considération la réalité en se disant, là on fait une exception, on ouvre une salle de prière dans un lieu qui normalement ne devrait pas en avoir. Mais si on ne l'a pas, on empêche la liberté de culte d'un citoyen.
Ça, 99% de nos élèves l'ignorent. Et 95% de la société française l'ignore. Ce qui montre bien qu'on a beaucoup de méconnaissance sur le principe de la laïcité, et c'est la raison pour laquelle les élèves, comme la société, a tendance à voir la laïcité comme quelque chose de punitif. Je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors qu'en fait, pour moi, la laïcité, c'est quelque chose qui installe un cadre permettant à chacun d'exercer sa liberté de conscience, sa liberté religieuse et sa liberté de culte.
Et oui, tu l'expliques bien à tes élèves, tu leur dis d'un côté une laïcité restrictive et de l'autre une laïcité constructive, sauf erreur de ma part.
Voilà, c'est exactement ces mots, alors qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas, c'est pas des mots issus d'un chercheur sur la question, et puis il y a beaucoup de débats sur le fait qu'il faut, il faudrait ou pas utiliser un adjectif pour qualifier la laïcité. Là, cet adjectif me semblait important pour leur montrer qu'il y a une façon, alors je voulais pas utiliser le négatif et le positif, mais je voulais leur montrer qu'il y avait quand même des différentes façons de voir cette laïcité dans notre société.
Alors là, du coup, effectivement, je veux que vous entendiez ce message de manière bien claire. La laïcité ne veut pas dire que la religion est une affaire privée. Vous avez le droit de sortir de ce lycée et de crier dans la rue « Je suis chrétien, je suis musulman ou je suis juif ». Vous avez le droit de distribuer des documents dans la rue, ça ne pose absolument aucun problème. La laïcité ne veut pas dire qu'on doit cacher sa religion.
Peut-être pour finir, se dire que cette question de la laïcité est tellement complexe, et tu le dis, il y a des termes qui sont flous, donc du coup il faut les travailler, il faut les discuter, et c'est peut-être le temps qu'on ne prend pas dans notre société. On préfère des discours simplistes servant le discours idéologique des uns et des autres, mais je vais m'arrêter là.
Alors moi, je rajouterais que je trouve d'autant plus important qu'on en discute avec nos élèves.
parce qu'en fait, on a tendance à pas les écouter. Et moi, je suis très inquiet quand je vois les résultats des sondages qui sont menés notamment par l'Institut Ipsos tous les ans maintenant, sur le rapport des jeunes à la laïcité. On se rend compte qu'ils sont en opposition totale avec la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est donnée dans la loi française. Et moi, ça m'inquiète, parce qu'on a des jeunes qui se construisent contre la société dans laquelle ils sont en train de grandir et de se construire. Et à mon sens, on a deux directions. Soit on a la direction ferme en leur disant « la laïcité, c'est comme ça, c'est la loi et il va falloir l'accepter ». Soit on en discute avec eux et par la discussion, on leur fait comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi cette notion, elle est a priori intéressante puisqu'elle a plus d'un siècle. Et si on a besoin de la faire évoluer, eh bien faisons-la évoluer, mais avec les élèves, en discutant avec les élèves, pas sans eux, pas sans les jeunes.
Pas sans les citoyens, finalement, de façon générale.
Voilà, et de façon générale, il faut qu'on ait un dialogue.
Oui. Un dialogue. Ça me fait penser à une instance qui s'appelle Destin commun, qui fait un travail formidable, qui part du postulat que plutôt que d'identifier ce qui fait différence chez nous, il faudrait identifier ce qui fait commun, au-delà de la manière dont on le met en mots. Peut-être une piste à explorer ?
Oui, on a du travail.
Tu leur proposes donc à la fin de ce travail en groupe de faire une synthèse.
Alors, on écoute tous attentivement. Là, vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre des notes. Par contre, je vous demande tous d'être vraiment très attentifs, de comparer avec les discussions parfois très vives que vous avez eues entre vous, et c'est normal. Et à un moment donné, vous avez le droit de lever la main pour dire « on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a pris une autre décision dans notre groupe ». C'est parti, on vous écoute.
J'ai reçu il y a peu Eric Sanchez, spécialiste du jeu pédagogique et qui parle de ce moment important qu'est le débrief, la synthèse. Tu nous parles de ce temps précieux qu'est la synthèse qu'ils font et la synthèse que toi aussi tu fais.
Alors effectivement, à partir du moment où on est dans les pédagogies actives de manière générale et dans des pédagogies dites ludiques en particulier, le débrief est devenu quelque chose de très très important. Toutes ces pédagogies actives n'ont d'utilité qu'à partir du moment où elles donnent lieu à une synthèse structurée. C'est une forme, pour utiliser un jargon très professionnel, mais on est dans l'institutionnalisation des savoirs. Et donc là, cette institutionnalisation des savoirs, elle a lieu avec le passage à l'oral d'un élève ou d'une équipe d'élèves. Et là, on est en train de travailler les compétences orales. Au lycée, on est en train de préparer le grand oral, notamment. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que, comme tous les élèves ont travaillé sur le même matériau au départ, qu'ils ont fait des choix, qu'ils ont parfois débattu, et ils sont encore plus à même d'avoir un regard constructif sur ce qui a été proposé. En disant à l'élève qui passe au tableau, tu as mis cet hexagone à tel endroit, tu lui donnes telle signification, nous, après discussion, on a décidé de le mettre ailleurs et on souhaite le partager, on souhaite justifier la raison pour laquelle on a fait un choix différent du vôtre. Et donc, ils discutent et moi, j'anime tout ceci, je distribue la parole et c'est tout. J'essaie d'intervenir le moins possible pour ensuite, éventuellement, faire une synthèse en 2-3 minutes à la fin. Qu'est-ce que je veux vous dire en guise de conclusion ? Je vous rappelle qu'on a commencé ici par vos connaissances autour de la laïcité, vos réactions autour de la laïcité. Vous m'avez défini la laïcité comme quelque chose de contraignant. C'est une vision, ici, que j'ai notée restrictive de la laïcité. Une version qui, aujourd'hui, est dans la tête de l'essentiel des Français. On peut retourner ça en essayant de voir une version constructive. La loi de 1905, elle arrive à un moment donné où on se dit, si on veut vraiment que les gens aient le droit d'exercer leur liberté religieuse, leur liberté de conscience, leur liberté de culte, il faut absolument organiser ça. Il faut organiser une laïcité de façon à ce qu'on ait des espaces neutres qui permettent à chacun d'exercer sa religion en toute liberté et en toute sécurité. Et quand il y a un flou, il y a débat et il y a tension. Nous, aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on continue de parler de la laïcité pour trouver la juste mesure et mettre d'accord tout le monde sans choquer personne et sans restreindre les libertés de qui que ce soit.
Quelle valeur ajoutée tu vois au jeu pédagogique ?
Alors, d'un point de vue pédagogique, déjà, on est sur des pédagogies actives. Rien que ça, c'est déjà intéressant de se dire qu'ils sont tous en activité, qu'ils réfléchissent, qu'ils débattent, sans avoir le stress d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose sur lequel je voudrais insister. On est en France, dans un pays où nos élèves préfèrent régulièrement ne pas répondre plutôt que d'avoir une réponse fausse. Et là, quand on regarde les études PISA, c'est évident. Nos élèves se censurent énormément. Donc là, moi, j'insiste lourdement à chaque fois pour expliquer qu'il n'y a pas de réponse fausse. Il y a juste des justifications qui vont être plus ou moins pertinentes. Donc il y a le partage, il y a le débat. Et en fait, le fait qu'ici, vous ayez assisté à une séance qui soit en EMC, ça n'est évidemment pas anodin. L'Hexagone Game, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en classe d'éducation morale et civique, mais également en classe de section européenne. Donc à chaque fois, des disciplines et des moments où j'ai vraiment envie que mes élèves parlent, débattent, donnent leur avis et justifient leur avis.
Les enseignants doivent respecter le principe de neutralité, c'est la laïcité à l'école. Mais ça, je pense que ce que tu m'as donné, Alice, c'est liberté de conscience. Parce qu'en même temps, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qui va justement nous permettre d'avoir une liberté de conscience. Tu vois ce que je veux dire ?
Je parie combien que c'est dedans ?
Mais on parie pas, argumente si tu veux mettre dans la confiance. Mais si t'as rien, juste parce que.
Pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin sur le jeu, la pédagogie ludique, j'encourage à aller voir une ressource qui a été écrite par Ségolène Paris de la Team Ludens qui s'appelle 10 jeux pour aider les élèves à mémoriser. Ça permet de continuer cette réflexion sur le jeu pédagogique. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement, toi, sur ce sujet et comment t'as découvert cet Hexagone Game ? Par hasard
Ah oui, totalement par hasard. Toujours à l'affût de nouvelles situations d'apprentissage pour essayer de varier les situations pour nous en tant qu'enseignants. On a besoin de ne pas faire toujours la même chose et puis aussi varier pour toucher d'autres élèves qui ne vont pas se retrouver dans d'autres activités. Et là, j'ai trouvé ça aux États-Unis. En fait, en fouillant un peu dans des newsletters du monde pédagogique, éducatif aux États-Unis, et je me suis rendu compte que des collègues utilisaient cette stratégie. Alors de manière très simple, en fait, ils distribuent des hexagones blancs qui visaient à forcer les élèves à écrire des mots très limités dans des hexagones et à les associer. Et moi, après, j'ai essayé de théoriser un petit peu tout ça, de gagner aussi un petit peu en lisibilité et puis en mutualisation. L'idée, c'était de créer un modèle que les collègues allaient pouvoir reproduire à l'infini grâce à la suite Canva. Donc là, moi, maintenant, un collègue qui voudrait faire un Hexagone Game, ça lui prend 3 minutes clé en main. C'est-à-dire, il a le modèle, il a juste à glisser ses images et à copier-coller ses textes à l'intérieur, il l'imprime et son activité est prête pour le lendemain.
On peut retrouver ça quelque part, Mickaël ?
On peut retrouver ça alors, en tapant Hexagone Game et puis mon nom. Et en fait, on va soit tomber sur le site de l'Académie de Dijon où on m'a demandé d'écrire un article, mais on va également le retrouver sur le site de la Team Ludens que tu as évoqué tout à l'heure. Et on en a même fait quelque chose sur Être Prof.
Merveilleux. On mettra tout ça dans les liens de l'épisode.
Genre les témoins de Jéhovah qui viennent t'agresser dans la rue.
Ah oui, ça s'est passé vendredi dernier.
Et eux, ils respectent pas la liberté de culte, par exemple.
Donc du coup, on les met avec
viennent
quoi
te voir. Tu mets liberté de culte, mais genre nul.
Alors pour toi, là, une question très opérationnelle et pragmatique. Ce type de séance, c'est dans quel espace, combien de temps, sur quel type d'apprentissage et quelle place dans ta séquence d'apprentissage ?
Alors, je vais commencer par la dernière question. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire que je l'utilise, par exemple, comme activité d'introduction d'une séquence, par exemple en géographie sur les migrations. Parce que souvent, ils savent beaucoup de choses sur le thème des migrations. Et moi, je leur donne des images, des notions, et je leur demande d'organiser tout ça. Et donc là, je réactive les pré-acquis.
Et ensuite, la synthèse permet de dire, vous avez visualisé certaines pistes, certains enjeux que nous allons désormais approfondir, théoriser. Mais ensuite, ça peut être aussi une activité de fin de séquence. On s'assure que les élèves ont bien compris les notions, qu'ils sont capables de les remettre en parallèle les unes avec les autres. Et donc, encore une fois, ils vont réviser en discutant ensemble, en négociant ensemble. Matériellement, ça veut dire que j'arrive en classe avec des kits hexagones qui font généralement une ou deux pages. Il ne faut pas que les hexagones soient trop gros, il faut qu'ils les découpent eux-mêmes et je leur fournis une feuille A3. Et donc, ils doivent découper, coller, dessiner, colorier, etc., remettre des titres, des flèches. Ce qui veut dire qu'en termes d'organisation, j'ai une phase d'introduction, j'introduis le thème du jour, j'introduis et je rappelle les consignes, même s'ils connaissent maintenant cette activité. Ensuite, ils se mettent en activité entre 20 et 25 minutes. Ils savent, à 5 minutes de l'arrivée, qu'il va falloir vraiment coller les derniers hexagones et qu'il faut avoir un poster à présenter, même si on n'a pas réussi à mettre tous les hexagones. Parfois, il faut trancher. Et ensuite, on a la phase de mutualisation orale. Et donc, moi, dans tout ça, je passe d'un groupe un autre, je réponds à quelques questions de vocabulaire, j'essaie d'expliciter parfois certains hexagones qui ne sont pas suffisamment explicites, mais là je suis beaucoup moins dans je m'assois avec vous et je viens faire de l'accompagnement individualisé parce que là il faut que ça se passe entre eux, donc je leur laisse la discussion et souvent ma phrase a été de leur dire tranchez entre vous. Il y a un débat entre vous, tranchez entre vous, prenez une décision et vous nous la présenterez ensuite à l'oral. Soit vous arrivez à trancher entre vous, soit vous n'êtes pas d'accord et vous le dites si c'est vous qui passez à l'oral. Vous dites, sur ce truc-là, on n'est pas d'accord et peut-être qu'il y a d'autres groupes qui vont dire qu'eux aussi ont rencontré la même discussion, le même problème. Et moi, à la fin, je viendrai peut-être vous dire quelle est la réalité.
Est-ce qu'il y a des prérequis pour proposer ce type d'activité ?
Non, pas particulièrement. Il y a par contre des précautions à prendre. Les premières fois, on risque très rapidement de se faire coincer par le temps, parce que même quand on est avec des élèves de collège et de lycée, à partir du moment où on leur apporte des papiers, on leur dit « vous découpez, vous collez », ils retombent automatiquement en primaire. Et là, d'un coup, ça peut prendre un temps incroyable parce qu'évidemment, il faut couper bien proprement et puis il faut pas dépasser. Et là, moi, le prof de lycée que je suis leur explique que je m'en fiche. Voilà, on y va, on découpe, on colle. Mais par contre, je ne vais pas évaluer à la fin le fait que ce soit découpé bien le long du trait. Et moi, ça me fait toujours rire. Vraiment, à chaque fois, je leur dis, vous oubliez vos souvenirs de primaire et je ne suis pas le maître et le professeur des écoles. Et là, on y va. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on débatte.
Mais tu sais, c'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai souvenir en classe maternelle, tu proposes un atelier, je vais te dire n'importe quoi, avec de la pâte à modeler pour apprendre à dessiner des lettres. Tu te rends compte qu'il faut en fait un premier temps où les élèves vont jouer avec la matière que tu leur donnes et après tu pourras les faire travailler avec cette matière là. Donc ça me fait penser à ça, c'est que j'imagine tout à fait le plaisir qu'ils ont dû aussi retrouver à découper, colorier, coller, et du coup ils ont besoin j'imagine de passer par cette phase où ils s'amusent avec la matière avant d'aller vers l'exercice intellectuel que tu leur proposes.
Voilà, et au bout de 2-3 exercices ils commencent à prendre des automatismes.
Exactement. Tu te souviens avoir joué, toi, à l'école, au lycée, au collège ?
Pas du tout.
Sous consigne de tes professeurs, j'entends.
Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a pu parfois entendre parler de mode, qu'on sait bien que tous les collègues ne sont pas encore prêts à rentrer dans cette ludification des enseignements. C'est toujours l'objet de débats dans les salles de profs. Ça va nécessiter de se former, d'en discuter ensemble. Et moi, je crois que je suis déjà suffisamment vieux pour avoir été élève à une période où ça n'était pas encore un débat, en tout cas pas chez mes enseignants.
Merci, Michael.
Et le timer est terminé. S'il vous plaît. Allez, on revient au calme.
Comment encourager, accompagner un premier plus petit pas possible sur ce sujet ?
Eh ben, je trouve que sur cette activité, c'est vraiment très 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 facile. Cette stratégie, en fait, je crois que j'ai fait, on doit en être à une vingtaine de formations qui ont été données, qui ont été données aux collègues sur cet outil. On a même créé un Padlet où j'ai des anciens collègues que j'ai eu en stage qui m'envoient leurs hexagones et qui acceptent de mutualiser ce qu'ils ont créé. Et en fait, souvent, je demande à faire un atelier limité à une heure, en leur disant en une heure, ça suffit. Je vais vous présenter le principe. Et ensuite, vous allez créer vous-même votre hexagone. Et à la fin de cette heure, je vous garantis que vous avez tous les matériaux dont vous avez besoin entre les mains pour mettre en œuvre cette activité dès cet après-midi si vous en avez besoin. Et on remplit le pari à chaque fois. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end. Et donc, voilà, il faut vraiment partir du principe qu'on n'a pas besoin de lire des tonnes de choses, on n'a pas besoin d'en discuter pendant des heures. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au bout d'une heure de formation.
Super. Je souhaite à ceux et celles qui nous écoutent de s'amuser à se lancer, parce que je trouve que s'amuser dans ce type d'activité, c'est chouette. Voilà, de se dire oh, « j'ai envie d'essayer ». Merci beaucoup en tout cas, Michael, pour ton accueil.
Merci à toi, Nathalie.
C'était « Être prof », le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Docuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acmé Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.